Nous faisons la lecture de Actes chapitre 19, versets 8 à 28. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendrit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. « Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste. Il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement notre industrie qui tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles les ont remplis de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Voilà, c'était la parole de Dieu. Alors pour ceux qui se sont toujours demandé pourquoi on appelle notre formation les samedis matins Éphèse, eh bien, maintenant vous savez, c'est grâce à ce chapitre, ce qui se passe dans ce chapitre, ce qui s'est fait à Éphèse. Il faut dire que le projet à Éphèse, ici, dans le 3e voyage missionnaire de Paul, cette mission, cette implantation à Éphèse a très bien marché. Autant le 2e voyage missionnaire était assez difficile, il devait fuir, quitter plusieurs villes, il est arrivé à Corinthe avec crainte et tremblement, autant ici à Éphèse, il y a des très bonnes choses qui se passent. Il va même dire dans une lettre aux Corinthiens qu'il écrit quand il était à Éphèse, voilà, une porte efficace et d'un accès, une grande porte et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mais ici à Éphèse, voilà, une porte ouverte, un accès efficace, ça a bien marché. Éphèse, il faut dire, est une ville clé pour toute cette région qu'on appelle l'Asie. Ici, ce n'est pas toute l'Asie qu'on entend aujourd'hui, tout le continent de l'Asie, mais l'Asie, c'est cette province qui aujourd'hui c'est la Turquie. Éphèse, c'était une ville clé. Et beaucoup d'autres églises, quand on regarde le Nouveau Testament, beaucoup d'autres églises sont nés du ministère à Éphèse ou bien ont été au bénéfice de ce ministère à Éphèse. On sait, par exemple, qu'il y avait un réseau d'églises qui s'entendaient assez bien ensemble entre Éphèse et puis Colosse et une autre ville qui s'appelle Hierapolis et puis Laodicée. Ils se partageaient notamment les lettres de l'apôtre Paul. Ou bien, comme vous savez, les mardis soirs, on étudie l'Apocalypse, cette lettre, ce livre de l'Apocalypse qui est adressé à sept églises. Et on pense que les sept églises, bon, il y a Éphèse qui est l'église mère, et puis les six autres, certainement, sont nées ou ont été au bénéfice du ministère de l'église mère ou a exercé un ministère pastoral. Jean, l'apôtre Jean, donc on comprend qu'il peut écrire à ces sept églises en commençant avec Éphèse en tête et puis des autres églises qu'il a dû bien connaître. Alors c'est ça la bonne nouvelle ici, c'est qu'à partir d'une ville, d'une église, le ministère a vraiment rayonné dans toute la région. Et c'est ce que Luc retient, il me semble, dans ce chapitre. On trouve ici trois épisodes qui ont permis un retentissement important, au-delà d'Éphèse, un retentissement important qui ont impacté toute la région. Et on peut même associer ces trois épisodes à trois hommes, Tyrannus, Séva, ou les fils de Séva, et puis Démitrius. Et chaque fois, Luc, il prend le soin de résumer l'impact de l'évangile. En verset 10, il dit « C'est ainsi, cela dura 2 ans, de sorte que tous qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Et puis, après ce qui s'est fait avec Séva, les fils de Séva, on lit en verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et puis même cette histoire avec Démitrius et Diane, le même résultat. En verset 3, il dit, survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, mais ça c'est connu un peu partout. Même Démitrius peut le dire. Il dit en verset 26, dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Donc, à partir d'Éphèse, toute l'Asie est au courant maintenant de l'Évangile. Et ça peut nous encourager, ça m'encourage. Éphèse est une ville clé pour sa région, comme nous croyons que Toulouse peut être une ville clé pour notre région. Et notre désir, c'est que l'Évangile pénètre nos cœurs, mais aussi connaisse un retentissement dans toute la région. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici de ces trois événements à Éphèse? Si l'Évangile va avoir un impact dans notre vie et dans notre région, voilà ce qu'il faut. Il faut d'abord entendre l'enseignement, ensuite voir la puissance et troisièmement confronter les idoles. Premièrement, entendre l'enseignement, ensuite voir la puissance et enfin confronter les idoles. Voilà ce qui peut permettre un retentissement régional et au-delà du message de Dieu. Tout d'abord, au cœur du ministère à Éphèse, ce qui a donné une réussite finalement à ce ministère d'Éphèse, nous trouvons cet enseignement de Paul. Au cœur de son ministère fructueux, ici, était cet enseignement quotidien qu'il a pu dispenser dans les locaux d'une école, d'un certain Tyrannus. Alors on suppose, on n'a pas beaucoup de détails, mais on suppose que cet homme Tyrannus gérait un centre de formation, peut-être il était un professeur libéral, ou il gérait un centre de formation, une école, et Paul a pu utiliser les locaux de cette école pour faire sa propre école de formation évangélique de disciples, de serviteurs engagés à Éphèse. Et voilà, de sorte qu'ils ont partagé ces locaux. On estime, beaucoup de commentaires pensent que voilà, l'école de Tyrannus continuait, mais Paul a dû profiter de la pause midi, des heures de la sieste, où les locaux étaient disponibles pour lui enseigner le message de Dieu. Alors ici, la pause midi, c'est entre midi et 2, mais il semble que plus on s'approche de la Méditerranée, plus la pause midi, l'heure de la sieste s'allonge. Et donc, on peut très bien concevoir qu'il avait à sa disposition 3, 4, 5 heures par jour pour enseigner pendant la chaleur du jour. Mais il a enseigné et le verset dit que cela dura 2 ans. Donc, c'est finalement beaucoup d'enseignements. Et cette école, c'est ce que Luc retient, cette école d'Éphèse a très bien marché, si bien marché, De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Luc, il est assez discret dans ses, assez sobre dans ses descriptions. Donc, lui, c'est pas quelqu'un à tout exagérer tout le temps. Mais ici, il dit que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Bien sûr, c'est ça, cette vision, cette envie qui nous a permis de, qui nous a poussé à parler d'Éphèse, un désir d'enseigner. Notre Éphèse, c'est sur une échelle bien plus humble, mais nous rendons grâce à Dieu que ça continuait. Les élèves ici sur Toulouse, et puis cette année, d'autres programmes similaires sont nés, s'inspirant d'Éphèse ici, à Bordeaux, à Toulon, et d'autres. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Mais pour revenir à entendre l'enseignement, c'est au cœur de ce ministère à Éphèse. Les épisodes que nous allons voir ensuite, les fils de Séva, Démétrius, tout ça, ils prennent plus de place dans notre texte. Et c'est vrai, il y a quelque chose de plus dramatique, plus sensationnel dans ce qui s'est fait là. Mais il faut dire que ces événements-là, c'était des événements ponctuels qui ont duré juste une journée, avec un grand impact, bien sûr, mais ça a duré juste une journée. Mais le gros du ministère de Paul, ce qui a pris 2 ans, tous les jours, c'était tout simplement un enseignement de la parole. Ce qu'il fait à l'école de Tyrannus, ce qu'il fait, c'était certainement exactement ce qu'il faisait à la synagogue. Quand on lit en verset 8, il parle librement pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Voilà, c'est ce qu'il a fait là, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus le faire à la synagogue, il a dû continuer avec des disciples dans cette école. Et je crois que ça nous encourage au cœur d'un ministère efficace pour l'Évangile. C'est un enseignement, tout simplement. Et c'est ce qui bouleverse encore les vies, c'est quand les gens reçoivent cet enseignement, un enseignement riche et solide de la parole de Dieu. Je pensais à plusieurs choses encore aujourd'hui qui montrent que finalement, après qu'on ait essayé tout, peut-être il faut revenir tout simplement à l'enseignement de la Bible. Il y avait cet homme en Suisse, Francis Schaeffer. J'ai déjà parlé de lui, mais avec son épouse, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont eu un ministère très, très efficace qui a connu un retentissement incroyable en Europe et en Amérique. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont acheté un chalet en Suisse, dans un petit village, et puis c'était à l'époque où ses enfants étaient déjà grands et étudiants à la fac. Donc ses enfants partaient à la fac, et puis ils rentraient le week-end, et puisque c'était un sympathique chalet dans les montagnes suisses, souvent ils faisaient venir avec eux, quand ils rentraient pour le week-end, ils faisaient venir leurs amis, leurs copains de la fac, pour passer le week-end. Et là, le soir, après le repas, pendant le repas, les discussions informelles commençaient. Et Francis, il discourait, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Il avait visiblement un don pour ça, et il discutait. Et ces discussions ont été tellement riches d'enseignements de vérité que ça commençait, plus d'étudiants commençaient à venir, et le salon se remplissait, et tout le monde écoutait avec avidité cet enseignement. Alors son épouse et sa fille disaient, mais il faut absolument qu'on enregistre cet enseignant pour le diffuser à plus grande échelle. Et lui, il ne voulait pas ça parce que non, c'est une discussion informelle, on ne peut pas enregistrer une conversation comme ça, c'est gênant. Mais un soir, la discussion était tellement intéressante et l'Évangile avait une telle puissance, une telle clarté que son épouse et sa fille, mais il faut quand même. Donc, eux, ils sont allés servir le thé, ils l'ont fait de manière un peu bruyante, et pendant ce temps, ils ont caché une enregistreur cassette dans un pot de fleurs derrière, et donc toute la discussion était enregistrée. Et après coup, ils lui ont dit, il était catastrophé, mais tous ceux qui étaient là, les incroyants, ceux qui venaient découvrir, eux, ils étaient ravis. Oui, c'est exactement ce qu'on veut, on veut pouvoir garder ça, partager ça avec nos amis. D'où est né donc un énorme ministère pour ce couple qui existe encore aujourd'hui en Suisse. Mes propres parents, par exemple, ont été assez marqués. Il y avait toute cette génération, la génération de mes parents qui était marquée par son enseignement. Il a fait énorme pour, pour définir les évangéliques tels que nous sommes aujourd'hui, pour maintenir la vérité ferme. Le mystère de ce grand ministère qu'il a eu reste, il était dans un petit chalet, il discutait, c'est tout ce qu'il a fait. Mais c'est là où on voit la puissance de l'enseignement de la vérité. Ce que j'ai pu constater moi-même en regardant le progrès de l'évangile, la santé de l'Église dans le monde, ceux qui ont contribué le plus au progrès de l'évangile, c'est ceux qui ont eu au cœur de leur ministère un ministère de la parole, l'enseignement, la prédication. Nous étions récemment à Genève pour ces conférences. Je rends grâce publiquement pour ces hommes-là qui ont enseigné, notamment Carson et Piper. Et l'impact qu'ils ont eu sur ma génération, tout simplement par un enseignement, une prédication. À Genève, on était 750, notamment pasteurs et serviteurs, à être là à Genève. Je suis sûr que vous demandez, si vous demandez à n'importe qui était là, qu'est-ce que vous avez marqué, qu'est-ce que vous avez retenu des trois jours passés ensemble, je suis sûr qu'ils diraient, c'est l'enseignement, c'est ce qu'ils nous ont, ils nous ont enseigné la parole. Et pourtant, ils ont pris 2 Timothée, ils l'ont expliqué. Quelqu'un pourrait dire, mais 750 pour ça, où sont les gadgets, où sont les danseuses, où sont les astuces publicitaires pour rassembler tout ce monde, pour passionner tout ce monde-là? Ils n'y sont pas et ils ont fait comme Paul, enseigner. Pourquoi cet enseignement a connu un si grand retentissement? Je pense que on l'a ici, verset 10 dit que tout le monde entendait la parole du Seigneur. Pourquoi une telle force? C'est parce que c'est la parole du Seigneur, la Bible c'est la parole du Seigneur. Et cette vérité-là, oui, elle est passionnante, oui, elle est puissante. Si on pense que c'était à l'heure de la sieste qu'il enseignait, c'est fort, parce que je pense que peu dormaient pendant les cours de Paul. Ses cours à lui ne devaient pas être un exposé monotone, ennuyeux. Au contraire, les gens rencontraient la parole du Seigneur de sorte qu'ils ont... cela a connu un retentissement incroyable. Parce que cet enseignement-là, cette Bible ouverte, exposée, oui, c'est ce qui répond à nos questions, c'est ce qui explique notre cœur, c'est ce qui explique notre monde, c'est ce qui explique notre sort éternel. C'est ce qui montre en quoi le Seigneur Jésus est vraiment la réponse et la solution à tout. C'est cet enseignement qui montre comment toute la Bible était unie autour de lui. Et c'est ça qui fascine, c'est ça qui passionne. Et ce ministère à Éphèse a vu ça et vu les fruits portés par cet enseignement quotidien de Paul. Donc il faut d'abord entendre l'enseignement. Au cœur de la foi chrétienne, c'est cette expérience-là, découvrir la vérité, l'enseignement de la Bible et entendre à quel point elle est vraie, elle parle à notre cœur. Ensuite, non seulement il faut entendre l'enseignement, il faut voir la puissance. Bien sûr, l'évangile n'est pas juste un cours magistral, c'est pas juste un échange entre prof et élève dans une salle de cours. Il faut voir la puissance. Et ce que Luc prend le soin de montrer aussi, que ce ministère de Paul à Éphèse avait aussi une grande puissance. Dans les versets suivants, hein, les versets 11 à 20, nous découvrons la réalité de la puissance spirituelle de l'Évangile. On dit en verset 11 d'abord que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Déjà dans la Bible, des miracles sont considérés comme des choses exceptionnelles, extraordinaires, pas ordinaires. Mais ici, on parle des miracles extraordinaires. Donc, c'est vraiment extraordinaire, exceptionnel, ce que Dieu a fait par la main de Paul. Le Nouveau Testament présente le ministre des apôtres et les miracles qu'ils ont faits comme étant justement exceptionnels, pas la règle pour tous les jours. Mais surtout au début de l'Église, dans ce livre des Actes, Dieu a appuyé le témoignage des apôtres par de telles choses. Éphèse notamment était un centre culturel des arts magiques, comme nous allons voir. Alors les Éphésiens avaient besoin de voir une puissance spirituelle plus grande que les puissances qu'il connaissait. Après, l'histoire des fils de Séva est assez comique même, mais cela rappelle la situation dramatique de tous ceux qui prennent Jésus à leur profit personnel ou qui essaient de faire un peu leur propre magie à la sauce Jésus. La réponse de la démon, du démon est très forte. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, vous êtes qui ? Il faut dire que les démons, ils ont peur de Jésus, on voit ça dans les évangiles, ils ont très peur de Jésus, ils ont très peur de Paul, mais ils n'ont pas peur de ces exorcistes. D'ailleurs, c'est la seule mention dans la Bible des exorcistes ici. Et ces exorcistes, comme beaucoup, c'est plutôt un mélange de charlatans et on va dire une conception très erronée de Dieu et de la Bible. On voit les apôtres ici ou ailleurs, ils ne se sont jamais présentés en tant qu'exorcistes, ils se sont présentés comme prédicateurs, enseignants de la parole de Dieu. Paul n'a pas passé son temps à faire la chasse aux démons, il a passé son temps à enseigner la parole du Seigneur. Et voilà, les démons ne sont nullement embêtés par les exorcistes, mais ils sont très embêtés par la présence de Jésus-Christ, cette présence qui se voit lorsque sa parole est prêchée, enseignée, comprise et crue. Mais surtout la puissance qu'il faut voir, c'est en verset 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. D'ailleurs, c'est pas dit, c'est ainsi que les mouchoirs de Paul croissaient en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi, ça veut dire quoi? Ainsi fait référence au verset précédent. C'est là où toute la puissance de l'évangile va se manifester et connaîtra son retentissement dans toute la région. Versets 19 et 20 dit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Notamment par rapport à la magie noire, mais peut-être bien plus. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance. Vous voyez, la puissance de l'évangile se voit notamment dans des vies transformées. L'évangile connaîtra son plus grand retentissement quand les chrétiens montrent cette transformation réelle, cette transformation radicale de caractère, cette nouvelle vie, comme ces Éphésiens ont fait. Ces livres, certainement ces livres qu'ils ont brûlés, c'était des livres contenant des sorts et des incantations, ces arts magiques, et qui se vendaient à grand prix, parce que c'était, quand on avait besoin de tel ou tel sort, tel ou tel problème, telle ou telle crainte, telle ou telle peur, on achetait le sort ou le livre qui allait bien. Mais tout ça, ils ont brûlé, et il dit que ça valait 50 000 pièces d'argent, c'est une grande somme. Ils sont prêts à flamber 50 000 pièces d'argent. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont mieux, ils ont un trésor plus grand, une puissance plus grande. Ils sont prêts à échanger leur livre parce qu'ils découvrent le livre, la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On est prêt à perdre 50 000 pièces d'argent si en échange on a quelque chose de beaucoup mieux. Et la puissance de l'évangile est là. Et la puissance qui peut encore vous transformer est là. Quand vous découvrez que la valeur du Seigneur et de son salut et de sa parole valent plus que tous ces efforts de dépannage et de résolution de problèmes, là, vous laissez tous ces anciens péchés, ces péchés, pour vous attacher au Seigneur. La puissance de l'évangile est là. Quand vous avez mieux, quand vous avez un trésor, quelque chose de plus grande valeur pour brûler le passé et s'attacher au Seigneur. Et c'est là le grand témoignage qui a été connu de partout, c'est qu'à quel point ils étaient transformés, à quel point ils étaient attachés maintenant au Seigneur. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, ces manifestations de puissance qui ont permis de voir vraiment la puissance de l'Évangile, voilà ce qui a encore vraiment bien marché à Éphèse. Et enfin, il faut non seulement entendre l'enseignement, qui est clé, non seulement voir la puissance, mais enfin confronter les idoles. Confronter les idoles et les faux dieux. Il reste encore un événement mémorable qui s'est passé à Éphèse pendant le séjour de Paul. Mais c'est encore quelque chose qui a permis à ce que la nouvelle de l'Évangile se répande, à un retentissement de l'Évangile. C'est cette affaire avec Démétrius et le temple de Diane qui a donné finalement beaucoup de publicité à l'Évangile. Alors Démétrius, déjà, comme on a vu en verset 26, il reconnaît lui-même l'impact que l'Évangile est en train d'avoir, non seulement à Éphèse, mais dans toute la région. Il dit en verset 26, vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Et il n'est pas content parce que, voilà, Diane, le temple de Diane, risque de tomber en discrédit. Et c'est sûr, quelque part, c'est bon signe que l'Évangile est en train d'avancer, que les gens sont en train de comprendre l'Évangile, c'est que l'Évangile va mettre en cause les grandes idoles d'une culture. Alors, Diane à Éphèse, c'était énorme. Le temple de Diane à Éphèse, c'était très grand, un des sept merveilles du monde. C'était la valeur la plus centrale, la plus chère aux Éphésiens, c'est ce qui frappait le regard de tout point de vue dans la ville. C'était leur gloire, c'était leur protection. Pour eux, c'était une évidence. Plus tard, le secrétaire, en verset 35, il dit « Homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre ou de cette pierre sacrée tombée du ciel ?» Cela étant incontestable, vous devez vous calmer. Donc, voilà, pour eux, c'est incontestable, c'est une évidence, c'est sacré, c'est intouchable. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas écouter l'Évangile, parce qu'il semble que le message de Paul dans l'Évangile dit que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Voilà. Non, grande est la Diane des Éphésiens. Et leur grand argument, c'est juste de se mettre en colère et de crier très fort. Grande est la Diane des Éphésiens, c'est incontestable, elle est grande, elle est là, elle est notre identité, elle fait partie de notre culture, ne touchez pas à ça, ça ne peut pas être vrai qu'elle soit mise en discrédit. Mais l'Évangile va confronter un peu tout ça et mettre en question, mettre en cause la grandeur, la capacité, la réalité de Diane et ce qu'elle peut offrir. Alors nous, quels sont les dieux et les déesses de notre société? Quelles sont les valeurs sacrées que personne n'oserait mettre en question, qui bénéficient d'un effet de foule où tout le monde dit « oui, c'est évident, c'est ça, c'est incontestable », alors que personne vraiment a pris le temps de réfléchir. Je vous donne un exemple. Il y a bien d'autres, mais un exemple d'une valeur sacrée qui est devenue, on va dire, une déesse, une idole pour nos cultures occidentales. D'ailleurs, au sud d'Éphèse, pas loin d'Éphèse, il y avait à l'époque cette île, cette ville, Rhodes. Rhodes, et à Rhodes, il y avait un autre des sept merveilles du monde. C'était on appelle un colosse, une énorme statue à l'entrée du port de la ville, et absolument énorme, c'était ce fameux statue à Rhodes. Et ce statue a inspiré une autre statue très grande à l'entrée d'un port d'une très grande ville, conçue par les Français, offerte aux États-Unis, qui s'appelle la statue de liberté. Mais cette liberté, dans notre conception actuelle, est devenue une déesse. La liberté individuelle, la liberté de faire ce qu'on veut, c'est ça pour notre société qui est sacrée. Et c'est ça qui est une valeur incontestable. Tout le monde le sait. On est libre de penser, de faire, de croire ce qu'on veut. C'est ce qui est inscrit sur notre monnaie, c'est ce qui est affiché partout, c'est visible à tout point de vue, tout comme Diane et le temple de Diane étaient visibles à Éphèse. C'est une gloire de notre société. Ah, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes un pays libre. Et souvent, quand on annonce l'évangile, quand on annonce le message de Jésus-Christ, la grande cri, « Oh non, taisez-vous !» Au nom de la liberté, au nom de la laïcité, on ne veut rien entendre. Et on n'aime pas l'évangile parce qu'il semble s'attaquer à notre liberté personnelle, la liberté de croire ce qu'on veut croire, la liberté de faire ce qu'on veut faire, la liberté de définir la sexualité comme on veut la définir. Et tout comme Démétrius qui dit, cet évangile, il est en train de dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et nous, en tant qu'évangélistes, on dit oui, les libertés faites de main d'homme ne sont pas des vraies libertés. Et c'est ce qui fâche parfois. Mais avouant, comme on le voit clairement chez Démétrius, avouant qu'il y a souvent une raison intéressée derrière nos idoles et nos faux dieux. Il y a une idolâtrie qui se cache derrière l'idolâtrie de Diane. On aperçoit assez facilement sa motivation. Lui, il met en avant que ça risque d'amener du discrédit à Diane, que sa majesté, qui est révérée dans le monde entier, risque d'être réduite à néant. Mais vous voyez bien, lui est en train de perdre de l'argent sur cette affaire. Il ne peut plus vendre en tant qu'orfèvre ces petits temples de Diane qu'il vendait. Et ce sera toujours la raison principale pour le rejet de l'évangile. On repère ce que ça peut nous coûter, on repère le problème que ça va poser pour nous-mêmes, pour nos vies personnelles, ce qu'on ne pourrait plus faire, ce qu'on risque de perdre, et donc on rejette l'évangile. Mais cette Diane, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux, je trouve fort que lui il reproche ça à Paul. Il est en train de dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Mais j'aimerais vous dire que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et ça peut vraiment nous faire de bien de l'entendre et de le comprendre. Parce qu'ils disent, c'est une évidence, cette Diane, elle est la gardienne du temple, elle est descendue du ciel, elle est tombée du ciel, cela étant incontestable. Mais c'est justement ce que Paul, par l'évangile, est en train de contester. Cette Diane-là, ce salut-là, ne peut pas sauver, ne peut pas délivrer, ne sont pas des véritables dieux. Ce, par contre, qui est incontestable, et c'est la base de l'évangile, ce qui est incontestable, c'est que Dieu lui-même, créateur de l'univers, lui, il est descendu du ciel. C'est pas une statue qui est tombée du ciel pour Diane. Dieu est descendu volontairement du ciel, et pas une statue, mais en os et en chair, il s'appelle Jésus-Christ. Et la vérité historique incontestable, c'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est ce que témoigne tout le livre des Actes et des Évangiles. C'est ça la vérité incontestable que nous pouvons croire nous-mêmes et découvrir que, oui, les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux, mais le Dieu Jésus-Christ, qui n'est pas fait de main d'homme, lui, il est le vrai Dieu, il offre un véritable salut. Tout comme on disait, la liberté qui est faite de main d'homme n'est pas une liberté. Cette liberté-là ne vous rend pas libre du péché, de l'égoïsme, de toutes sortes de problèmes. Mais en Jésus-Christ, qui est venu pour renverser, pour casser ces idoles et ces faux dieux de notre société, il offre mieux, il offre une vraie liberté. Vous connaîtrez la vraie liberté en lui. La vraie liberté étant la capacité et le vouloir de faire ce qui est saint et juste et bon et d'y trouver plaisir. Et Jésus-Christ vous offre celle-là. Donc il faut entendre l'enseignement, il faut voir la puissance et il faut confronter les idoles. C'est ce que ce ministère à Éphèse a fait et le retentissement était énorme. Pour que toutes ces autres églises un jour puissent voir le jour et être édifiées et que l'évangile
voilà, touche toute l'Asie.
C'était la bonne nouvelle pour Luc en acte 19, et nous voulons aussi croire que Dieu nous a placés à Toulouse pour que l'Évangile connaisse un retentissement large dans notre région, dans notre pays. C'est sûr, Toulouse est une ville clé, et on peut croire, on veut croire, comme Paul disait lorsqu'il était à Éphèse, oui, une grande porte, un accès efficace mais ouvert. Il y a beaucoup d'adversaires, mais la porte est grande ouverte pour que l'Évangile aille très loin. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à vivre ces choses. Prions.